CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, on retrouve autour de la table Monique Couteau qui va nous présenter le rapport d'activité sur le logement social.
Oui, un rapport d'activité qui est fait tous les ans, donc celui-là porte sur 2022 et on fera le point ensemble sur cette question.
Sera suivi d'Alain Defrémont qui va nous parler cette fois-ci de cinéma et d'un film en particulier.
Oui, c'est un film qui est sorti début septembre, mais je vous conseille de le voir parce qu'il est encore en salle.
Et enfin, on finira l'émission avec une interview de Monsieur Jean-Claude Denard avec Monique Couteau toujours.
Voilà, et Jean-Claude viendra nous parler de nos forêts préférées, c'est-à-dire celles qui nous entourent de Meudon et de Fausse-Repose. Voilà.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Oui, comme on l'a vu dans la dernière émission, en parlant du CCAS, certains services municipaux produisent annuellement un bilan de leur activité. Et nous savons tous que la question du logement est une question majeure pour beaucoup de nos concitoyens. Cette émission fait donc, d'après ce bilan, un état des lieux du logement social à Chaville.
Est-ce que tu peux expliquer le service, c'est-à-dire comment est organisé et comment fonctionne le service du logement ?
Alors, il y a 3 agents à temps complet qui travaillent et il y a un maire adjoint dédié au logement. Depuis le 1er septembre 2023, le service est rattaché au pôle Solidarité et Santé, qui regroupe les thématiques seniors, santé, action sociale, c'est-à-dire CCAS, hygiène, économie sociale et solidaire. Le service enregistre les demandes de logement social, mais aussi tout ce qui concerne l'hygiène et la salubrité. Il est joignable par téléphone ou par courrier. Il tient une permanence physique les 1er et 3e lundi après-midi du mois en mairie et sur rendez-vous tous les jeudis matins dans les locaux du CCAS au centre commercial des Créneaux. En 2023, ils ont donné quelques chiffres sur 2023, 82 personnes ont été reçues au sein des différentes permanences physiques et 689 appels ont été reçus pour différents types de renseignements, dont des aides à remplir les demandes en ligne de logement social. 332 dossiers ont été traités contre 267 en 2022, soit en renouvellement, hein, il ne faut pas oublier que les renouvellements de demandes doivent être faits tous les ans, soit en première demande. En gros, 231 renouvellements, 101 créations. Le service intervient aussi tous les ans pour aider les résidents des foyers de jeunes travailleurs. 35 ont été accompagnés en 2023 contre 17 en 2022.
Alors, quels sont les principaux enseignements des demandes effectuées ?
Alors, il existe un service national d'enregistrement des demandes de logement social. Et donc, la municipalité, le service de l'habitat à la municipalité, a accès à l'ensemble de ces demandes. Donc, on sait qu'il y a eu 8621 demandeurs qui ont indiqué la commune de Chaville dans les choix de localisation. Ça, c'est un chiffre en augmentation absolument régulière. En 2020, ils étaient 4484, donc ça a doublé. Dont 1016 ont demandé Chaville en premier choix. Et c'est pareil, en 2020, c'était 889. Les ménages habitant Chaville et souhaitant y être logés représentent près de 80% des demandes. Ils sont plus de 60% à être déjà locataires du parc social ou du parc privé. Il est à noter que la proportion de demandeurs en situation d'hébergement temporaire, foyer ou résidence sociale augmente. 150 demandes en 2023 contre 122 en 2022. Les motifs principaux de ces demandes sont comme les années précédentes, logement trop petit pour 49% et loyer trop cher pour 25%. Le logement trop petit est majoritaire chez les demandeurs déjà dans le parc social, puisque c'est 54% de l'origine des demandes, et le loyer trop cher pour le parc privé, 53% des demandes. Arrivent ensuite les séparations, les raisons de santé ou de handicap. 48% des demandes concernent des T1 ou T2. 27% pour des logements entre 4 et 6 pièces et 25% pour des T3. En cohérence avec ces demandes, près de 50% des demandes concernent une personne seule avec ou sans enfant. Les ménages de 4 personnes et plus représentent 17%. Les ménages sans enfants représentent 57%, c'est plus 2 points par rapport à l'année précédente. La proportion de demandes dont l'ancienneté dépasse le délai anormalement long fixé à 4 ans pour Chaville est toujours de 20%. On peut noter tout de même une diminution des demandes de 8 ans et plus. Elles étaient 8,7% en 2021, 5,6% en 2022, mais ça reste non négligeable.
Il y a plusieurs catégories de HLM, est-ce que tu peux les rappeler, mais aussi les règles d'attribution ?
Oui, alors, il y a le PLAI, prêt locatif aidé d'intégration, comme son nom l'indique, pour les ménages à faible revenu. Le PLUS, prêt locatif à usage social, correspondant en gros au HLM, et qui essaie plus de 80% des logements sociaux. Le PLS, prêt locatif social finance, et le PLI, prêt locatif intermédiaire. Ces deux derniers sont des logements pour des revenus, pour des personnes ayant des revenus plus élevés. C'est le revenu fiscal de référence du ménage à N-2 qui permet de définir la catégorie de HLM à laquelle on peut prétendre et donc le loyer à payer. Je donne juste un exemple pour une personne seule. Le plafond de ressources pour un PLAI, c'est 13 845 euros. Pour un PLUS, c'est 25 165 euros. Et pour un PLS, c'est 32 715 euros. Les prix au mètre carré peuvent ainsi varier selon la catégorie, du simple au double, d'environ 6 euros le mètre carré à 12 euros et plus. Les loyers dans les logements anciens sont plus abordables que dans le neuf, ce qui freine aussi beaucoup les mouvements entre les locataires. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans un appartement qui est trop grand, qui souhaite avoir un appartement plus petit, mais à qui on va proposer non seulement des mètres carrés en moins, mais par contre un loyer plus élevé. Donc c'est aussi un des freins pour faire tourner les logements. Alors il faut savoir quand même que l'ancienneté de la demande n'est pas le seul critère d'attribution. Il y a aussi des critères d'urgence qui sont pris en compte selon une grille de points attribués aux différents facteurs, chômage, violence, présence de mineurs, etc. Bon, mais si on doit faire un constat général, le problème majeur reste le pourcentage de PLAI inférieur à 10% du parc, bien en deçà des besoins, sachant que 62% des demandeurs chavillois sont éligibles à ces logements très sociaux. Le principal bailleur social sur Chaville, c'est Haute-Seine Habitat, qui réalise près d'une attribution sur deux, suivi de C15, 21% en 2022. En résultat, 133 logements ont été attribués en 2022, contre 135 en 2021 et 139 en 2020. Par rapport aux 1016 demandes, c'est peu. Le nombre de logements sociaux sur Chaville est d'environ 2278. D'autres problèmes se posent pour les ensembles de HLM, comme la rénovation de ces ensembles de logements. Celui du Doisu est programmé, la passerelle doit être démolie puis reconstruite, mais d'autres ensembles d'HLM sur Chaville ont de gros besoins, tant sur le plan thermique que phonique, et tout simplement aussi sur le cadre de vie.
Merci beaucoup Monique. Vous pouvez contacter le service logement par téléphone au 01 41 15 47 85 ou par mail logement@ville-du6chaville.fr. Vous pouvez venir aussi à nos permanences du samedi après-midi pour une aide en ce qui concerne votre dossier au local de la place citoyenne. Merci beaucoup Monique, on passe tout de suite à la chronique culture.
Bande-annonce avec Alain de Frémont.
Alain, tu nous as parlé tout à l'heure d'un film que tu es allé voir, j'imagine, et dont tu vas nous parler.
Oui, après un été déserté, peu riche en événements cinématographiques, la saison a bien commencé avec le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Audiard, ça vous dit quelque chose ? Ben oui, Michel Audiard, bien sûr. Né en 1920 et mort en 85. C'était un dialoguiste, scénariste, réalisateur français de cinéma, également écrivain et chroniqueur de presse. On se souvient de lui comme dialoguiste savoureux dans de nombreux films célèbres tels que Les Tontons Flingueurs, et il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. S'inspirant de la gouaille du peuple parisien, les dialogues de Michel Audiard constituent l'un des meilleurs témoignages de l'irrévérence détachée propre aux années 1960. Parfois qualifié d'anarchiste de droite, un des seuls regrets qu'on lui connaisse, c'est de ne pas avoir eu le temps d'adapter à l'écran Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Il est le père du scénariste et réalisateur Jacques Audiard. Ce dernier a été plusieurs fois récompensé au César, notamment par 3 Césars du meilleur réalisateur, en 2006 pour « De battre, mon cœur s'est arrêté », en 2010 pour « Un prophète » et en 2019 pour « Les frères Sisters ». Et cerise sur le gâteau, la Palme d'Or lors du Festival de Cannes 2015 pour « Dipane ». Emilia Pérez, lors du dernier Festival de Cannes, a obtenu le prix d'interprétation féminine. Nous en parlerons un peu plus tard. Donc son dernier opus, Emilia Pérez, c'est le nom que prend un caïd narcotrafiquant mexicain, Manitas del Monte. Il va organiser, avec l'aide d'une avocate, le simulacre de son décès et sa chirurgie de réattribution sexuelle pour l'aider à vivre la vie dont il a toujours rêvé, être une femme. C'est un résumé très réducteur du film, qui est d'une originalité folle, car présenté en drame musical, chorégraphié et chanté. Durant les 20 premières minutes, j'ai été scotché sur mon siège devant tant d'inventivité, une trouvaille de mise en scène par minute. Si, de mon point de vue, le temps se relâche un peu au milieu du guet, cela repart de plus belle jusqu'à un final extraordinaire, porté par la chanson de Brassens « Les passantes », dont les paroles ont été réécrites par Antoine Paul. Car ces femmes qui portent le film ont obtenu le prix d'interprétation féminine, comme je vous le disais, au Festival de Cannes 2024. Ce fut aux grandes dames de Marion Maréchal-Le Pen qui n'a pas supporté qu'un tel prix fût attribué à une transgenre. Elles sont toutes remarquables, notamment Zoé Saldana dans le rôle de l'avocate qui va aider Manitas à devenir Emilia, et Carla Sofia Gascogne qui interprète les deux rôles transgenres. Et quand on sait que ce film a été tourné dans un studio de Bry-sur-Marne, on ne peut que saluer cette belle réussite du cinéma d'auteur, d'autant que la partition musicale est absolument extraordinaire, épousant les moments forts du film, dansé et chanté, comme on a rarement vu dans le cinéma français. Et on vient d'apprendre que le film représentera la France aux Oscars l'an prochain.
C'est dommage qu'on l'ait raté à Chaville, parce qu'il est passé.
Il est passé, oui.
Enfin bon, il doit passer encore dans
oui,
les
cinémas des environs.
Oui, il
est encore programmé dans quelques salles, mais c'est vraiment scotchant.
Merci beaucoup, Alain, pour ce résumé du film. Je rappelle le film qui s'appelle
« Emilia Pérez »
de
Jacques Audiard.
Merci beaucoup, on passe tout de suite à la chronique. À portée de parole, l'invité Jean-Claude Dénard. On va parler des forêts de Chaville.
De parole avec Diane Lafront.
Oui, alors d'abord nous retrouvons Jean-Claude avec plaisir, hein, parce qu'il est déjà venu nous apprendre plein de choses à la radio l'année dernière. Tu viens nous parler des forêts, mais surtout de nos forêts, hein, Fausse Repose et Meudon, hein, celles auxquelles on est très attachés. Et j'avais envie de rajouter tant qu'elles n'ont pas disparu, parce que tu es inquiet. Et tu nous diras pourquoi. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la forêt, finalement ?
Oui, merci de m'avoir invité. La forêt, évidemment, ce sont des arbres pour la plupart des personnes qui voient une forêt. C'est ce qu'ils voient en premier. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. La forêt, c'est un ensemble d'êtres vivants, certains que l'on voit, comme les arbres, les chevreuils, d'autres animaux, les crapauds, les chauves-souris.
Les écureuils.
Mais, et les écureuils, bien sûr, oui. Mais c'est aussi, il y a une très grande partie des animaux que l'on ne voit pas, notamment les bactéries, les microbes. Dans une cuillère à café de sol forestier, il y a des millions, sinon des milliards d'êtres vivants. Et il se trouve que tous ces êtres vivants, il y a un équilibre qui se fait. Et cet équilibre, ça s'appelle un écosystème. Et l'écosystème évolue, c'est toujours en mouvement. Donc la forêt, c'est surtout un écosystème. Et la santé de la forêt, c'est la santé de l'écosystème.
Et le sol aussi, le rôle du sol pour la température et l'humidité, c'est important peut-être ?
Oui, pas seulement le sol, mais aussi le climat. C'est-à-dire que ce sont les deux choses principales. S'il n'y a pas de sol et qu'il n'y a pas de climat dans la forêt est en danger. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que l'on est inquiet. Alors, le climat, c'est le climat extérieur, évidemment, mais c'est beaucoup le climat que la forêt crée elle-même. Elle crée son propre climat. Un arbre pompe l'eau dans le sol. L'évaporation par les feuilles et au moment de la photosynthèse, cette évaporation-là pompe de la chaleur, demande beaucoup de chaleur pour passer du stade liquide au stade vapeur. Et cette chaleur-là, qui est pompée par ce phénomène, crée un microclimat, c'est-à-dire crée une fraîcheur. D'ailleurs, c'est la même chose pour un arbre en ville. Donc, pour avoir si vous êtes en ville, pour avoir de la fraîcheur, il faut des arbres. Le sol, c'est ce qui compte, c'est l'humidité et la température. Alors, pour l'humidité, il se trouve que la forêt émet des composés organiques volatiles, ça s'appelle des COV, qui sont des petites particules qui condensent les gouttelettes d'humidité qu'il y a dans l'atmosphère, les condensent en gouttes plus grosses qui, elles, tombent et ça fait de la pluie. Ce qui veut dire que les forêts font pleuvoir. Elles font pleuvoir sur elles-mêmes, ce qui alimente le sol en humidité et aussi les nappes phréatiques, ce qui est bien pour nous. Cette humidité, elle risque de starir. Et là, les couches superficielles donc, se sèchent de plus en plus, mais les grands arbres, ce qu'on appelle les arbres-mères, c'est le squelette de la forêt, ces arbres-là ont des pivots, ont des racines qui vont très profond et qui vont chercher l'humidité, même après 6 ou 7 mois de sécheresse. Et comme ces arbres-mères sont liés à tous les autres arbres et les plantes par un réseau racinaire et des champignons qui s'appellent les mycorhizes, on a un réseau où les arbres-mères soutiennent tout le reste de la forêt. Donc vous voyez, c'est un écosystème. La forêt crée son climat et crée aussi son propre sol.
On m'a dit qu'un arbre qui a 100 ans est un vieil arbre. Qu'en penses-tu ?
Ah oui, c'est une des choses que... C'est de l'enfumage, quoi. Pour la forêt, un arbre comme un chêne, un châtaignier ou un tilleul, ils peuvent vivre 1000 ans. 500 à 1000 ans, quand on regarde la flore française des forêts. Bon, il y a des arbres qui vivent moins longtemps, les arbres pionniers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on part du couperas, par exemple, dans la forêt de Fausse-Repose ou de Meudon, eh bien, donc les forêts, je parle de forêts tempérées d'Île-de-France. Tout d'abord, en temps normal, s'il n'y a pas de sécheresse ou de réchauffement climatique, eh bien, les arbres, premiers arbres à pousser sont les bouleaux, les peupliers, les aulnes, qui sont des arbres pionniers. Ils demandent beaucoup de lumière et ils poussent très vite et ils travaillent le terrain pour les arbres suivants, qui sont les post-pionniers. Donc après une cinquantaine d'années et jusqu'à 150 ans, on a surtout des post-pionniers. Ce sont les hêtres, les frênes, les châtaigniers, les chênes. Et c'est d'autres arbres du sous-bois, comme des charmes, les ifs, les sorbiers. Et ça, tout cet ensemble d'arbres s'étale dans la hauteur de la forêt. Ce qui fait qu'il y a des feuilles partout. Et à tous les étages, ce qui convient aux différents types d'oiseaux qui, eux, utilisent ces différents étages. Et on peut dire aussi que ça convient à l'augmentation de la biomasse, parce que plus vous avez de feuilles, plus vous avez de photosynthèse, et plus vous avez de carbone qui est stocké par la forêt. Ensuite, bon, vers 300 ans, la forêt devient un peu plus mature, mais en fait, il faut entre 700 et disons 1000 ans pour qu'une forêt devienne mature. Qu'on nous dit qu'il faut rajeunir la forêt, quand une forêt comme celle de Meudon, qui a en gros l'âge moyen des arbres, c'est 56 ans, c'est complètement ridicule par rapport au temps normal d'une forêt.
C'est des bébés, quoi.
Ce sont des adolescents, parce qu'un chêne adolescent, c'est entre 50 et 80 ans avant qu'il fasse des glands.
C'était une bonne question, finalement.
Oui, en effet.
Bon, est-ce que tu peux rappeler les différentes fonctions de la forêt ?
Oui, en effet, je vous avais parlé la première fois des fonctions de la forêt. Alors, je vais y passer rapidement. La fonction sociale, qui est le bien-être des habitants, en fait. Alors, on peut distinguer le bien-être physique, la promenade, le jogging, les VTT, se promener à cheval. Mais depuis les années 80, par exemple, au Japon, est née une pratique qui s'appelle le Shirin-yoku, ou en français, on dit le bain de forêt, qui permet un bien-être mental. C'est-à-dire que on voit des arbres, des personnes qui se mettent contre des arbres, et ils ont des arbres préférés ou qui les enserrent. Et en cas de dépression, c'est un bon médicament. Et en tout cas, il semble qu'il y ait des études qui disent que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la fonction sociale. Il y a aussi, alors très importante évidemment, la fonction environnementale. Vous avez tous entendu parler de l'effondrement de la biodiversité dans le monde. La forêt, c'est là où ça résiste le mieux, mais ça a du mal à résister et surtout, ça dépend de la gestion de la forêt. Ensuite, vous avez le puits de carbone, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que la forêt, depuis 40 ans, on a un besoin. On s'est aperçu qu'il y a une accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et la forêt, c'est parmi la plus grosse absorption du carbone dont on dispose avec les océans. Ensuite, vous avez l'eau, la collecte et la filtration de l'eau. Alors avant la création de l'ONF, je crois que c'est Philippe Auguste qui a créé les eaux et forêts. Je ne sais pas si c'est largement avant Colbert. Enfin, toujours est-il qu'on avait cet organisme qui traitait de l'eau à la fois et des forêts. Et il s'occupait donc des deux. Et maintenant, on a juste l'ONF, qui est l'Office national des forêts, et il s'occupe pas trop de l'eau. Et donc cette eau, en fait, c'est le cycle dont je vous parlais tout à l'heure pour un arbre. Eh bien, vous avez un cycle aussi pour une forêt, parce qu'une forêt attire l'eau, fait pleuvoir, retient l'eau dans son tapis forestier et stocke l'eau dans les nappes phréatiques. Ensuite, vous avez l'exploitation du bois. Et ça, vous voyez ça dans le code forestier, on parle presque que de ça. Et en fait, que ce soit l'ONF ou l'État, il n'y a que ça qui les intéresse. Et nous, en tant qu'association, on s'intéresse bien sûr aux quatre autres enjeux de la forêt, aux quatre autres fonctions.
C'est pour ça que je voulais te poser la question de est-ce que ces fonctions te paraissent compatibles, ces différentes fonctions?
Non, elles ne le sont pas, bien sûr. La biodiversité ne peut pas augmenter si l'exploitation augmente. Le puits de carbone, il diminue s'il y a moins d'arbres. C'est-à-dire que plus on coupe et moins il y a d'arbres, donc moins il y a de puits de carbone. Et surtout que quand on coupe et qu'on laisse le sol au soleil, ça pose un gros problème parce qu'on a un dessèchement et les arbres ne poussent plus. Si les jeunes arbres ne poussent plus, et si on a une sécheresse, par exemple, l'assèchement se fait par les premières couches, et les petits arbres meurent dans les couches superficielles. Ce que je voulais aussi dire sur l'exploitation, c'est qu'en Île-de-France, il y a 89% du bois récolté qui finit à la chaudière ou dans la cheminée. Or, le bois énergie fait beaucoup de dégâts, non seulement parce que plus on le récolte, et moins il y a de forêt. Mais en plus, le bois énergie, en brûlant, émet des particules fines. Et les particules fines sont la première cause de mort prématurée en Île-de-France, devant le trafic routier. Il y a quelques années, c'était à peu près équivalent, mais maintenant, il y a moins de voitures diesel. Et le chauffage, en général, provoque plus de particules fines. Mais alors, le chauffage au gaz, il n'y a pas de particules. Le fioul, il y en a beaucoup moins que le bois. Et le bois émet même plus de particules fines et surtout nocives que le charbon. Alors, détruire les forêts pour une exploitation qui tue les habitants, c'est quand même quelque chose d'un peu fort. On n'a pas vu ça depuis l'amiante. C'est un scandale. L'État, en fait, subventionne les chauffages au bois, subventionne même le bois carrément, puisque la taxe, la TVA, n'est seulement de 10%. Donc, il faut vraiment supprimer toutes ces aides de l'État.
Oui, peut-être que tu voulais quand même nous dire un mot du code forestier et du rôle de l'ONF.
Oui, alors le code forestier, il y a quand même une partie, je crois que c'est l'article 212, qui dit que dans les forêts à forte fréquentation, l'exploitation doit s'adapter. Alors on regarde les forêts de forte fréquentation, tiens, forêt de Meudon, il y a 40 ans, il y avait 4 millions de visites par an, il n'y a pas eu de compte fait depuis, mais ça fait quand même 4000 visites par hectare par an, en fait, c'est une petite forêt, hein. La forêt de Fontainebleau, il y a plus de visites en l'absolu, mais c'est une très grande forêt et... La forêt la plus visitée à l'hectare de France, c'est la forêt de Meudon. Juste devant, la forêt de Fausse-Repose et la forêt de Saint-Cucufin aussi. Et ces forêts-là, il se trouve que ce sont les plus exploitées d'Île-de-France. Le plan d'aménagement de la forêt de Meudon, qui est sorti en 2021, prévoyait d'éradiquer 27% de la forêt. C'est-à-dire qu'il resterait plus que 73% des arbres vivants. Mais aussi, en même temps, sur le même plan d'aménagement, on nous a dit... Mais on va faire des chemins d'exploitation de 4 mètres de large tous les 24 mètres où on les gardera sans arbres parce qu'on veut faire passer les engins de façon à pouvoir exploiter la forêt. Et bien, ces chemins d'exploitation, c'est quand même un sixième, donc c'est 17% de la surface forestière. Maintenant, on ne sait pas non plus si ces 17%, ça fait partie des 27% ou pas. On a posé la question, on n'a toujours pas de réponse de la part du directeur de l'ONF. Parce que ce qui compte pour le climat, par exemple, et le bilan carbone, ce sont les coupes, les arbres qu'on coupe. Et dans les arbres qu'on coupe, il y a les coupes sanitaires. Et vous savez probablement qu'avec l'encre du châtaignier, il y a des endroits où il y a 20% d'arbres malades, mais on coupe tout, parce que c'est plus facile.
Il n'y a plus d'élagueur aussi, tu me disais. Il n'y a pas d'élagueur, donc c'est plus facile et de alors, couper l'arbre.
Pour les... Oui, effectivement. Pour les coupes de sécurité, qui sont une quatrième raison de coupe, les coupes de sécurité, jusqu'à présent, il y avait de temps en temps, il y avait des élagueurs, ils coupaient les branches qui étaient dangereuses, qui étaient au-dessus des chemins et qui risquaient de tomber sur la tête des gens. Mais maintenant, il n'y a plus d'élagueurs, nous ont appris les forestiers récemment, il y a un mois, et ils coupent les arbres au lieu de couper une branche. En fait, quelle que soit la cause, on coupe. Et on ne sait pas si, dans une génération ou deux, il va nous rester même la moitié de la forêt. Quand on compte 27%, 17%, les coupes sanitaires, les coupes de sécurité, on arrive à 50% ou plus de la forêt.
Ouais, c'est pour ça que tu étais inquiet.
C'est pour ça. On est très inquiet pour l'avenir de nos forêts.
Avec ton association Chaville Environnement et d'autres associations, donc vous avez lancé une campagne, non seulement une campagne de pétition, mais aussi des réclamations en direction de l'ONF et de l'État.
Alors on n'est même pas les seuls à faire ça, parce que ces constats dont je vous parle, très récemment, la Cour des comptes a publié un rapport. Et ce rapport est sévère vis-à-vis de l'ONF. Il est sévère, mais il est assez doux par rapport à la réalité. En fait, ce qu'ils disent, c'est que l'ONF ne prend pas suffisamment en compte le réchauffement climatique. La forêt est en première ligne pour deux crises majeures de la société à notre époque. S'il s'agit de l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique, la catastrophe climatique, comme ils disent. Et donc, ils constatent que l'ONF ne l'adresse pas suffisamment, et ils constatent qu'ils n'ont pas les moyens, en fait. L'État ne donne pas les moyens à son gestionnaire d'adresser les problèmes qui permettent de les résoudre. Pour la biodiversité, c'est très peu. Nous, en tant qu'association, on est obligé de faire des bilans des crapauds, des chauves-souris pour alerter l'ONF des endroits où il ne faut pas aller. Alors, la Cour des comptes dit que l'ONF n'a pas les moyens de faire son travail, il faut lui donner les moyens. Et c'est vrai. Maintenant, nous, après avoir côtoyé la ONF, l'ONF ne veut pas nous parler et ne répond pas à nos questions. Alors, on se demande aussi si le jour où ils auront les moyens, est-ce qu'ils vont couper plus d'arbres ou est-ce qu'ils vont nous écouter. Voilà aussi la question. Alors, nos revendications, pour en revenir à ta question, Monique, c'est simple, hein, il y en a trois. La première, puisque le code forestier dit que les forêts les plus fréquentées ne doivent pas être exploitées de la même façon, nous, on demande à ce que nos forêts de Meudon et Fausse-Repose soient moins exploitées que la moyenne des forêts françaises. C'est-à-dire que le taux d'exploitation soit moins de 61%, qui est le taux d'exploitation de la moyenne des forêts françaises. Alors qu'en ce moment, il parle de 130%, hein, c'est fabuleux. Et la deuxième demande, c'est qu'ils respectent la biodiversité. Donc stop à l'extinction de la biodiversité. Et la dernière, eh bien, c'est ce qu'on demande, c'est que la gouvernance de l'ONF inclut la société civile dans l'élaboration des plans de gestion, et y compris les associations. Voilà.
Absolument. Ben, merci, c'était très clair, tout ça. Merci beaucoup, Jean-Claude.
Merci beaucoup, Jean-Claude Hénard, d'être venu ici au studio de Radio VCE pour nous parler des forêts de Chaville. On espère que le message sera entendu. C'est la fin de cette émission. Vous écoutiez Radio VCE. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan Denuit.